Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, un coup de semonce pour la majorité. François Bayrou et Marielle de Sarnez, convoqués aujourd'hui par l'Office anti-corruption, à faire des emplois présumés fictifs au Parlement européen. Plus de 2 ans après les révélations de Radio France, les enquêteurs ont accumulé les éléments, les informations de Sylvain Tronchet dans un instant. Les diesels, même les plus récents, explosent les normes anti-pollution, oxyde d'azote, et quand il fait chaud, c'est encore pire. Résultat d'une étude inédite et massive réalisée à Paris. Les détails tout à l'heure. Une soirée de violence digne des quartiers les plus durs à Quimper, Finistère. Une quinzaine de voitures brûlées après une intervention de la police dans le quartier de Pénars.
Vers 21h à peu près, j'ai entendu des déflagrations.
Toutes les voitures ont eu le temps de cramer. C'était avec des bidons d'essence pour allumer les voitures.
Et ils étaient combien ?
Oh, ils étaient au moins une vingtaine.
Vous entendrez le reportage dans quelques minutes. La grève dans les services des urgences et au-delà, la CGT appelle à une mobilisation dans tout le secteur de la santé aujourd'hui. Et les manifestations, globalement, vont se multiplier dans les semaines à venir. Bonjour Yaël Goz.
Bonjour Bruno.
On va prendre quelques minutes avec vous tout à l'heure pour analyser ce climat politique et social en cette fin d'été, début d'automne. Un nouveau Macron très à l'écoute, une rentrée qui semble apaisée. Est-ce que c'est vraiment le cas ?
Le brouillard se dissipe et qu'est-ce qu'on voit ? Un agenda d'opposition sociale, sociétale et politique qui se remplit à vue d'œil.
A tout à l'heure pour les détails et les repères. Dans ce journal encore, Aigle Azur, encore des centaines de passagers en carafe. Vous en entendrez un coincé à Rio. Les repreneurs ont jusqu'à ce soir pour se manifester. Aucun dossier ne tient parfaitement la route pour l'instant. 50 morts, dernier bilan encore provisoire de la tempête Dorian aux Bahamas. Les derniers échos avec l'envoyé spécial de France Inter. Et puis l'Égypte et les accusations de corruption contre les régimes. Accusations sur Internet. Dernier espace de liberté. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno.
La Terre au carré, mercredi, c'est le jour des enfants.
Oui, ils sortent de moins en moins en plein air, hélas, ne vivent plus l'expérience de la nature. La journaliste Moïna Fauchier de La Vigne publie une grande enquête sur le sujet. Et comment remettre donc la nature au centre du développement des enfants? J'attends vos témoignages et vos questions dès maintenant.
01 45 24 7000 et la TAC comme mot-clé sur les réseaux sociaux. La Terre au carré, c'est à 13h30, à tout à l'heure. Avant cela, nous aurons évidemment, c'est mercredi, le conseil cinéma d'Eva Bétan. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter.
Et voilà donc un gros nuage sur la rentrée du principal partenaire du gouvernement, le Modem, le parti de François Bayrou. Et François Bayrou, justement, et Marielle de Sarnez sont convoqués aujourd'hui par les enquêteurs de l'Office contre la corruption et les infractions financières. Enquête préliminaire, ils doivent répondre dans l'affaire des emplois présumés fictifs au Parlement européen. Au fond, le soupçon est le même que pour le Rassemblement national. Le Modem a-t-il fait payer par le Parlement de Strasbourg des assistants qui travaillaient pour le Parti Centriste à Paris? Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Bruno.
Cellule Investigation de Radio France, c'est vous avec Élodie Guéguin qui aviez révélé cette affaire qui avait provoqué la démission de François Bayrou du gouvernement en juin 2017. Alors ça fait plus de 2 ans, Sylvain, les enquêteurs ont pris de longs mois pour étoffer un dossier embarrassant pour la majorité.
Oui, parce que d'après nos informations, effectivement, ils ont mis à profit ce temps pour trouver des éléments qui semblent bien montrer qu'il y aurait eu au sein du Modem de François Bayrou une stratégie qui consistait à financer une partie du fonctionnement du mouvement grâce à des fonds européens. Le système était à peu près toujours le même. Des salariés étaient embauchés par le Modem, puis ils étaient pris en charge par les députés européens du mouvement avec qui ils signaient des contrats d'assistants. Alors pour comprendre, il faut se replacer, notamment dans le contexte de 2011. François Bayrou prépare sa candidature à l'élection présidentielle. Il a fait un très bon score en 2007. Il espère que cette fois-ci c'est la bonne, mais il n'a pas de moyens. Son parti est exsangue. Il apparaît, il faut une équipe qui va le mettre sur orbite sur la campagne. Et il apparaît donc qu'un certain nombre d'entre eux, une dizaine au moins, auraient été financés par les parlementaires européens de l'époque. Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, Nathalie Griesbeck, Jean-Luc Benamias et la nouvelle commissaire européenne, Sylvie Goulard, qui a été entendue hier.
Alors, François Bayrou n'était pas député européen, contrairement à Marielle de Sarnez, qui est convoquée également, donc on l'a dit. Est-ce que le patron du Modem peut être impliqué dans cette affaire, Sylvain ?
En clair, pouvait-il ignorer la situation? Alors, d'après nos informations, la perquisition menée au Modem, notamment, a été fructueuse. Les enquêteurs ont notamment saisi des mails où des cadres du Modem échangent sur les montages de contrats de travail pour payer les salariés du parti. Des mails qui semblent montrer que personne au sein du mouvement n'ignorait l'existence d'un système. Et puis, les policiers ont également entendu d'anciens députés, plus ou moins proches du mouvement, d'anciens assistants. Certains, ceux qui travaillent toujours au Modem, ont contesté avoir bénéficié de contrats fictif, mais d'autres témoignages sont beaucoup plus accablants. Il est fait état notamment d'un document qu'on aurait fait signer aux députés où ils s'engageaient à mettre à disposition du parti une partie de leur enveloppe. Et puis un ancien assistant notamment est venu dire que le système existait bien avant la création du MoDem, du temps de l'UDF, et que Marielle de Sarnez, la plus proche collaboratrice de François Bayrou, était à la manœuvre.
Commentaire ce matin de la porte-parole du MoDem, Sarah El Haïry. Cela fait 2 ans et demi que François Bayrou et Marielle de Sarnez attendaient de pouvoir comprendre, répondre et s'expliquer dans cette affaire. Cela va permettre de passer à autre chose. Abandonner ou pas le diesel et à quel rythme? Voici un élément de plus dans ce fameux débat. Un test, une étude en conditions réel, réalisé par l'ONG qui avait révélé le Dieselgate, les tests truqués dans les laboratoires, en juin-juillet de l'année dernière. Au début de l'été, donc, pendant 20 jours, des capteurs ont mesuré les polluants émis par 180 000 voitures et deux roues à Paris. Et Faustine Calmel, la note est très mauvaise pour le diesel qui pollue bien au-delà des normes autorisées.
Le principal enseignement, c'est que les véhicules diesel, même les plus récents, émettent en ville jusqu'à 6 fois plus d'oxyde d'azote que lors des tests en laboratoire et 5 fois plus que les voitures essence. Phénomène accentué quand il fait chaud, assure Johan Bernard, l'un des chercheurs de cette étude.
C'est lié aux oxydes d'azote qui viennent augmenter d'autant plus que la température ambiante est au-dessus de 30 degrés. Les oxydes d'azote combinés à l'ensoleillement et à la température participent encore plus à l'augmentation de la pollution.
Et favorisent encore le réchauffement, cercle vicieux. Il faut donc revoir les tests d'homologation des diesels, estime Karine Léger, directrice d'Air Paris.
Pour que dans la perspective de réchauffement climatique, les tests soient faits peut-être à des conditions de température qui aillent au-delà de 30 degrés et donc des véhicules qui ne soient pas plus émetteurs alors qu'on a déjà une canicule et qu'on a déjà des niveaux de polluants qui sont importants.
Et puis autre exigence, refuser la requalification des nouveaux diesels en critère 1, comme l'envisage le ministère de l'économie. Christophe Najdowski, adjoint au transport à la ville de Paris.
Il y a une pollution supplémentaire qui ne justifie en rien le fait de les aligner sur les véhicules essence. Et donc il faut maintenir cette différenciation entre véhicules essence critère 1 et diesel qui sont aujourd'hui critère 2.
Le ministère a lancé sa propre étude sur la question. Les résultats sont attendus d'ici la fin de l'année.
Étude présentée en plein salon automobile de Francfort, l'un des plus importants au monde, et les grandes marques multiplient les présentations de véhicules électrique, même Porsche. Hier, Greenpeace accusait par ailleurs l'industrie automobile d'être responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, pointés en particulier les gros véhicules SUV. 14 voitures brûlées, des dizaines de personnes qui caillassent les pompiers et la police. Arrivées sur place, ça s'est passé dans le quartier de Pénars hier soir à Quimper. À l'origine, selon la police, il y a une opération pour mettre fin à des rodéos quand des ados ou jeunes adultes sillonnent les rues et les trottoirs à moto ou scooter. Valentine Letesse, le préfet, parle de violence inacceptable à Quimper après cette flambée.
Une odeur de fumée et d'essence de la rue de Bretagne à la rue de Savoie. Des voitures sur le toit, brûlées, et des habitants rassemblés dans la nuit.
Vers 21h à peu près, j'ai entendu des déflagrations.
J'ai entendu fumer ma clope, et puis c'est là que j'ai vu la fumée noire.
Toutes les voitures ont eu le temps de cramer.
C'est la vôtre dedans?
La première.
La première. C'était avec des bidons d'essence pour allumer les voitures.
Et ils étaient combien?
Oh, ils étaient au moins une vingtaine, une trentaine.
C'est les petits jeunes de 15 ans, 16 ans, quoi, qui étaient en cagoule.
Alors tout serait parti d'une course-poursuite entre un jeune et la police. La directrice de la sécurité publique du Finistère, Nelly Jonot-Poirier.
Sans doute, suite à notre intervention sur des rodéos, quelques temps après, on a eu des feux de véhicules. On a des effectifs de police qui sont intervenus, qui ont été caillassés, puisqu'ils n'étaient pas très très nombreux. Donc on a rassemblé tous les effectifs qu'on pouvait pour pouvoir sécuriser l'action des pompiers, puisque les pompiers, effectivement, ne pouvaient pas travailler en sécurité.
Annelise vit ici depuis 25 ans et elle ne reconnaît plus son quartier.
Moi, je vois que les choses se dégradent.
Vous vous sentez oubliée?
Oui, complètement. Complètement.
Les habitants se rassurent comme ils peuvent.
Parce que vous qui garez votre voiture là.
Donc vous déplacez votre voiture quand même.
Ah ben je viens d'arriver là. Ben je vais la mettre là-bas.
Mais pour certains, rien n'y fait.
C'est foutu quoi. Moi je vais pas dormir de la nuit. On a peur quoi.
Non mais
j'ai
peur parce que.
Oui, ils l'ont dit. Oui, les jeunes ont dit on va revenir.
Reportage Valentine Letesse, France Bleu Brésil, au chapitre violence à Vaux-en-Velin hier dans la banlieue lyonnaise. Près de 200 personnes réunies en soutien à un buraliste. Son magasin a été braqué à 4 reprises en 3 semaines. Les professionnels de santé au sens large, mécontents de leur sort, vont-ils unir leurs forces? Employés des services d'urgence, des autres étages dans les hôpitaux ou encore des maisons de retraite? Bien, c'est l'espoir, cette unification des colères. Espoir de la CGT qui organise une journée d'action aujourd'hui dans les hôpitaux hôpitaux et les EHPAD, et une manifestation entre la place d'Italie et le ministère de la Santé à Paris. Le cortège doit s'élancer en ce moment même. Parole de manifestante, elle s'appelle Sylvie, elle est aide-soignante en EHPAD, elle est au micro de Wafia Kenich. On manque de bras, surtout dans les petites villes.
Nous sommes 2 pour 120 résidents. Nous travaillons 12 heures. Rediriger les patients vers les EHPAD, oui, c'est bien. Mais nous, il faut qu'on ait les moyens aussi d'avoir des médecins dans les EHPAD qui viennent les voir. Et comme nous sommes dans des petites communes éloignées, nous n'avons déjà plus de médecins généralistes dans les villes. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Ils ne viennent déjà pas les voir. Donc, forcément, quand il y a des urgences, eh ben oui, on est obligé de les amener aux urgences. Donc, c'est le chat qui se mord la queue parce qu'on n'en finit pas. De toute façon, nous, la nuit, à partir de 21h, il n'y a plus de médecins. Et il faut savoir que voilà, on est une petite commune, la France ou Athènes, et ben non, il n'y a plus de médecins. Donc les médecins, ils viennent déjà quand ils ont fini leur consultation. Donc forcément, des fois, ben, on est obligé de les envoyer aux urgences parce que ça a trop traîné tout ça. Il faut des moyens humains, il faut des bras, il faut voilà.
Voilà pour le témoignage de cette aide-soignante des Vosges, interrogée par Wafia Kenich dans la manifestation organisée par la CGT aujourd'hui à Paris. Alors à propos du système de santé français, il y a aujourd'hui tout de même une information réconfortante. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour.
La prise en charge des frais médicaux est particulièrement généreuse en France. Une fois que la sécurité sociale et la complémentaire sont passées, il ne reste en reste à charge, c'est l'expression, que 7% à payer. Le chiffre n'a jamais été aussi bas.
Non, c'est du jamais vu. L'année dernière, chaque Français a coûté un peu plus de 3000 euros au système de santé, mais il n'a déboursé de sa poche que 214 euros. C'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre de 7%. Un reste à charge qui décroît donc d'année en année. Il était encore de 9,2% il y a 10 ans, 7,7% en 2017. Et les Français, rappelons-le, sont très gâtés en la matière. C'est chez nous qu'on paye le moins de sa poche et c'est un record mondial. Alors pourquoi paye-t-on de moins en moins? Ça s'explique d'abord par la généralisation depuis 3 ans de la complémentaire santé dans les entreprises. Aujourd'hui, tous les salariés du privé sont couverts par une complémentaire et donc mieux couverts que par le passé. Ensuite et surtout, ça vient de l'augmentation des maladies chroniques en France. Avec le vieillissement de la population, il y a de plus en plus de cancers, de diabète, d'insuffisance rénale. Ces affections longue durée sont prises en charge à 100% par l'assurance maladie. Le patient, dans ce cas, n'a plus rien à débourser. J'ajoute que cette tendance à la diminution du reste à charge devrait se poursuivre dans les années à venir avec la mise en place, vous le savez, progressive d'ici 2021, du reste à charge zéro pour l'optique, le dentaire et les audioprothèses.
Le système de santé français a aussi de bons côtés, et cela n'empêche pas les colères. Et si l'on va sur franceinter.fr et que l'on regarde l'agenda social plus globalement de cette fin d'été, début d'automne, eh bien on voit que les appels à manifester ou à la grève vont se multiplier dans les jours et les semaines à venir. La CGT secteur santé aujourd'hui, une grève dans les transports en Ile-de-France vendredi contre la réforme des retraites. Ça, ce sont les rendez-vous les plus proches. Il y en aura beaucoup d'autres. Allez voir cet agenda sur franceinter.fr. Et je salue Yaël Goz.
Bonjour Bruno.
À nouveau, bonjour. Chef du service politique de France Inter, je le disais dans les titres. Yaël, on va prendre quelques minutes avec vous pour décrire ce climat politique et social en cette fin d'été, début d'automne. Un nouveau Macron d'abord, posons cela.
Alors on est dans un cas d'école assez classique en politique, dans les rentrées, le storytelling de la rentrée, le récit que vous font les communicants sur ce qu'il faudrait comprendre de la nouvelle politique menée, et puis le moment de vérité. On regarde si tout ça se vérifie et était bien sincère. Emmanuel Macron l'avait dit sur tous les tons, dans tous les formats lors de sa rentrée au G7, j'ai changé, vous vous souvenez, j'ai changé d'approche sur les sujets sociaux, effet gilet jaune, j'ai changé de logiciel sur l'écologie, effet Greta Thunberg. Et depuis la fin août, on vit, nous tous les journalistes, sur ce nouveau bréviaire de l'acte 2. Horizontalité dans la réforme, on doit associer, co-construire, tirer au sort des Français pour qu'ils participent. Encore ce matin, c'était ce discours-là de la méthode qu'Emmanuel Macron tenait à ses ministres en conseil à l'Élysée. Le grand débat qui a fait et qui va faire des petits, décliné à toutes les sauces.
Oui, on débat de les côtés là.
Tous les côtés, on redécouvre les corps intermédiaires, on fait l'éloge des élus locaux. Tout seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. C'est le nouvel adage, revu et corrigé, de la présidence Macron à mi-mandat. Je vous donne un autre exemple, oui. Bruno, demain, pour Gabriel Attal, qui est en charge des universités, il va aller au McDo, lui, dans un McDo le plus proche de la Sorbonne à Paris, pour échanger directement avec les étudiants, l'écoute.
Alors Gabriel Attal au McDo, et le président de la République dans un atelier, hier, visite à Bonneuil-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, dans une entreprise d'insertion. Et alors, au cours du grand débat, on lui a souvent reproché d'accaparer un peu la parole. Là, il a dit « je suis à l'écoute uniquement ». Écoutez ça.
tout à fait prêt à ce qu'on prenne un peu plus de temps pour quelques prises de parole qui évoquent difficultés, blocages, sujets concrets, ce qu'on peut faire encore mieux. Je vous donne cette carte blanche, je prends sur mon temps, si je puis dire.
On écoute, on débat, c'est horizontal, mais Yael Goz, ce que vous dites, c'est qu'en fait, il n'est pas certain, même en déminant, même avec un acte 2, que l'exécutif passe un automne tranquille.
Maintenant, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a tout un agenda de contestation en germe ou déjà bien visible, et notamment dans les services publics auxquels les Français, sondage après sondage, disent leur attachement, pompiers, urgences, policiers, EDF, RATP vendredi, la fin septembre aussi est bien chargée, vous avez une semaine un peu clé entre deux grèves pour le climat dans les collèges et les lycées les 20 et 27, et au milieu, le 21, la tentative de comeback des gilets jaunes, dans un grand rassemblement fourre-tout qui a pour thème « Luttons contre le système ». Et puis les syndicats, FO le 21 et la CGT le 24 pour les retraites.
Alors pour apaiser les esprits, les retraites, ça y est, on a compris, c'est pour plus tard la réforme.
Pour après les municipales, mais vous connaissez l'adage, on ne sort de ces ambiguïtés qu'à ses dépens, et il faudra bien, à un moment donné, sortir du bois et assumer la douloureuse si ça doit faire mal.
Alors, on a fait la liste, Yael, de toute la liste de catégories de Français en colère. Est-ce que ça peut converger pour autant ?
À chaque rentrée, on se pose la question. Jean-Luc Mélenchon en avait fait le pari en 2017, puis en 2018, finalement, la surprise est venue d'ailleurs, des gilets jaunes. Et c'est ça qui crée un peu d'angoisse chez les ministres en ce moment, et à l'Élysée, c'est que on ne sait pas forcément d'où ça peut partir. Parce qu'il n'y a plus d'opposition structurée. Ouais. Quand les marcheurs ici, sur votre plateau, Bruno, disent en studio, on aimerait bien avoir des LR un peu plus forts, avoir des socialistes un peu solides en face. C'est pas juste un effet de langage, un jeu de politique. Non. Parce que plus rien n'est régulé comme avant. Les syndicats sont parfois débordés par leur base. Et les socialistes et les républicains n'incarnent plus une opposition, une alternance immédiate et crédible. Donc là, effectivement, l'imprévisibilité dans ces cas-là pour savoir d'où peut partir l'étincelle.
D'autant qu'il y a d'autres sujets, l'immigration notamment, d'autres sujets potentiellement explosifs en cette rentrée.
Débat à l'Assemblée le 30 septembre pour corriger, s'il le faut, la loi asile-immigration, la loi Collomb qui avait été votée il y a un an. Et là aussi, c'est de l'équilibrisme parce que vous investissez les thèmes de votre adversaire, c'est la triangulation, les thèmes chers à Marine Le Pen et au RN, mais vous ne devez pas perdre pour autant la confiance de vos troupes qui n'ont pas été élues là-dessus. Donc là aussi, ça va être assez sensible comme rentrer sur le terrain régalien. Terrain sociétal, évidemment, on peut faire vite.
PMA.
La PMA pour toutes. La vraie fausse alerte sur la circulaire des enfants nés de GPA à l'étranger hier est symptomatique de cette ultra-sensibilité du sujet. Le gouvernement a dit à sa majorité, vous ne travaillez que sur le projet de loi que l'on a pondu, rien d'autre, il n'y a pas de GPA. N'empêche, il y a une minorité de députés En Marche qui en veulent amender pour qu'on parle de cette GPA. Et là, effectivement, c'est sensible. Emmanuel Macron se cherche des alliés en cette rentrée. Il a encore de nombreux adversaires disséminés et parfois cachés.
Merci Yael Goz pour la transition. La PMA et cette question, les anti-PMA vont-ils mobiliser massivement dans la rue comme contre le mariage pour tous? À l'époque, le premier rendez-vous, c'est le 6 octobre. On ne prend pas le chemin d'une mobilisation massive, notamment parce que la droite et même une partie de l'extrême droite gardent leur distance avec la manif pour tous et ses petits frères et sœurs. À l'extrême droite, par exemple, le vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a été ce matin l'invité de France Inter. Est-ce qu'il ira manifester le 6 octobre ?
Non, je n'irai pas manifester.
Pourquoi ?
parce que je considère que le débat, il doit avoir lieu à l'Assemblée nationale. Nous avons des représentants. Il y a beaucoup des Français iront manifester et je veux dire, il n'y a pas de problème. Mais moi, je considère qu'il y a des impératifs aujourd'hui économiques, des impératifs sociaux. Il y a le dossier des retraites qui va s'ouvrir. Il y a le dossier de la sécurité et des violences qui continuent de monter dans notre société. Et je crois que ça m'apparaît des sujets prioritaires. Et moi, je crois, si vous voulez, j'ai cette conviction que les sujets sociétaux touchent à l'intime et c'est la raison pour laquelle je suis convaincu qu'ils doivent être traités par référendum. C'est aux Français, dans une majorité, de dire s'ils considèrent ces changements sociétaux comme des avancées pour la société.
Et le sujet divise, voilà, c'était la petite relance, comme on dit dans notre vocabulaire, de Léa Salamé ce matin sur France Inter. Aller ou pas à la manif du 6 octobre anti-PMA, le sujet divise à l'extrême droite. Marion Maréchal, pour l'instant, a prévu d'y aller.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvy.
Nous allons aux Bahamas près de 10 jours après le passage de l'ouragan Dorian. Bilan provisoire, 50 morts. Il sera sans doute beaucoup plus lourd. Toute la partie nord-est est sinistrée. Grand Bahama et surtout l'île d'Abaco sont ravagés. Les habitants contraints d'abandonner le peu qui leur reste. L'envoyé spécial de France Inter est Thibault Lefebvre. Il avait déjà couvert le drame sur l'île de Saint-Martin et il a retrouvé un bénévole du Secours Populaire qui lui aussi était à Saint-Martin. Comparaison entre les deux. Ce bénévole s'appelle Max Bordet.
Ce que j'ai vu de Dorian, les dégâts sont énormes. Il a fait exploser du béton. J'ai pas vu de béton exploser à Saint-Martin. Là, dans la zone des Abacos, il n'y a plus d'habitants. Ils sont obligés de partir. Il y a une chose qui n'existait pas à Saint-Martin, c'était l'eau. Là, il y a 6 mètres d'eau par endroit. 80% des dégâts aux abacos, c'est pas le vent, c'est l'eau. Des pans de route qui sont partis, c'est l'eau. Des arbres qui sont tombés, c'est l'eau. Et c'est de l'eau de mer qui est venue poussée par le vent. Ça crée des dégâts. Vous avez 3 mètres qui arrivent chez vous, qu'est-ce que vous faites? Ceux qui savent pas nager, ils meurent. Et ceux qui sont coincés sous le plafond, ils meurent. C'est ce qui est arrivé. Et pas à Saint-Martin. Saint-Martin, c'est du vent. Ceux qui pouvaient se mettre à l'abri du vent, ça allait. Il y a eu un petit peu d'eau pour ceux qui étaient en bord de mer, mais les autres à l'intérieur des terres, non. Là-bas, non. Vous aviez le vent dehors et la mer qui vous pousse. Donc, il fallait faire un choix.
Voilà pour ce témoignage recueilli par l'envoyé spécial de France Inter, Thibault Lefebvre. L'actualité internationale, c'est encore en Égypte. L'Égypte tenue d'une main de fer par le président Al-Sissi. Il n'y a plus dans le pays que les réseaux sociaux pour laisser s'exprimer les voix dissidentes. Ce dernier espace de critique envers le régime s'agite les réseaux sociaux. Depuis maintenant une semaine, depuis la publication d'une série de vidéos par un entrepreneur qui a longtemps collaboré avec l'armée et il accuse aujourd'hui directement le président Al-Sissi de dépenses faramineuses, inutiles. Il accuse l'armée de corruption. Au Caire, Martin Roux.
Dans ses vidéos postées sur Facebook puis YouTube, les sommes citées par Mohamed Ali donnent le tournis. 110 millions d'euros pour la construction d'un hôtel par une entreprise de l'armée dans la banlieue du Caire ou encore 12 100 000 euros pour la résidence d'été du président près d'Alexandrie. Et cet entrepreneur du BTP qui a collaboré avec les entreprises de l'armée pendant 15 ans ne s'arrête pas là. Ces dépenses excessives concerneraient aussi la femme et l'entourage du président Al-Sissi et il accuse les entreprises de l'armée de monopole sur les grands projets étatiques. Depuis son exil en Espagne, l'entrepreneur dénonce le double discours du président Al-Sissi en s'adressant directement à lui.
Tu dis que nous sommes pauvres et que nous devons avoir faim pour construire le pays. Mais est-ce que tu as faim quand tu jettes des milliards par la fenêtre?
Ces accusations restent pour l'heure sans preuve, mais les autorités n'ont pas tardé à contre-attaquer. Mohamed Ali est ainsi poursuivi pour trahison, alors que ses vidéos font partie des plus vues ces derniers jours en Égypte et les dépenses astronomiques dénoncées indignent les internautes égyptiens. En effet, la population endure depuis 2016 des mesures d'austérité sans précédent. Selon des statistiques publiées en juillet, un tiers des Égyptiens vit sous le seuil de pauvreté. Le Caire, Martin Roux, France Inter.
Dans l'affaire Epstein, l'enquête française, le volet français progresse. 3 victimes ont été entendues à leur demande par les policiers. Police qui lance un appel à témoins. Elle laisse un numéro de téléphone sur Twitter, notamment. Des policiers spécialisés sont mobilisés. Si vous avez été victime ou témoin, contactez-nous. C'est le message. Ces avions ne décollent plus depuis un peu plus de 4 jours et son avenir est toujours aussi incertain. Aigle Azur, deuxième compagnie française. Où en est le dossier alors que d'éventuels repreneurs ont jusqu'à ce soir pour se manifester. Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour Bruno.
Nous faisons le point avec vous Philippe. Dans un instant d'abord, parole d'un naufragé d'Aigle Azur. Car non seulement les avions sont cloués au sol, mais la compagnie n'a pas un sou en caisse pour dédommager ou payer un billet retour aux passagers qui ne peuvent plus prendre l'avion. C'est le cas de Diego. Il est ingénieur informatique. Béatrice Duguay l'a joué au téléphone. Il est coincé à Rio. Alors on leur a proposé à tous ces naufragés un vol Air France.
Il nous annonce le tarif. 1100 euros par personne. Pour un direct Sao Paulo-Paris. Nous, c'était impossible de reprendre des billets à ces tarifs-là parce que on passe de billets à 430 euros à 2200 euros pour deux. On s'est dit, bon, bah, on va essayer de trouver une autre solution. Et on a trouvé des vols bien moins chers en décalant un petit peu notre retour, évidemment. Donc, ça implique des coûts en plus. Nous, on perd 430 euros parce que Aigle Azur, les clients sont les derniers dans les créances. On repaye 730 euros par personne pour le retour avec Royal Air Maroc. On paye des nuits d'hôtel, de Airbnb, etc. au Brésil et on décale des trains en France. Donc le total, je sais pas, mais on va dire qu'on est à peu près à peut-être 900 euros par personne en plus.
Et auprès de Béatrice Duguay, Diego a l'honnêteté de reconnaître qu'il y a pire tout de même dans la vie qu'être coincé à Rio. Mais enfin, c'est quand même une galère. Alors Philippe Lefebvre, on vous retrouve plus que quelques heures pour présenter un projet de reprise. La deadline, c'est ce soir. Il y a 14 dossiers sur la table. Le problème, Philippe, c'est qu'aucun ne semble satisfaisant pour l'instant.
Oui, copie à revoir, on pourrait dire. Et les repreneurs ont donc jusqu'à ce soir 23h59, très précise, pour transmettre leurs offres de reprise chiffrées et précises, notamment sur l'origine de l'argent qu'ils affirment vouloir mettre sur la table. C'est ce que les experts appellent le sérieux industriel. Ensuite, le tribunal de commerce d'Evry examinera les dossiers et vendredi, il y aura une réunion du comité d'entreprise d'Aigle Azur pour voter un avis en clair pour dire quelles sont, aux yeux des 1150 salariés, les offres les plus acceptables, notamment en termes d'emploi. La reprise de 100% des salariés était la condition sine qua non lundi soir pour les organisations syndicales. Mais avant cela, Il devrait y avoir des rencontres discrètes dans la journée entre les représentants des pilotes et quelques-uns des repreneurs déclarés, car on sait qu'il y a plusieurs points qui posent question. L'origine, par exemple, des 40 à 50 millions d'euros que Lionel Guérin, l'ancien patron d'une filiale d'Air France, dit vouloir injecter dans l'entreprise. Les conditions de recrutement des navigants, pilotes et hôtesses chez Air France, qui se feraient sur examen et qui donc ne garantiraient pas forcément un emploi à chacun. Et puis, le sort des 150 salariés du siège, du personnel administratif, pour lequel les syndicats étaient très inquiets lundi soir. Donc clairement, les jours et les heures qui viennent vont être décisives pour l'avenir des Glazures.
Et c'est lundi que le tribunal de commerce doit donner sa décision, tribunal de commerce d'Evry. Ça ne durera peut-être pas, quoique la France mène de 2 points en ce moment face aux États-Unis dans le quart de finale de la Coupe du Monde de basket, 22-20 pour la France au moment où on se parle. On suit ça d'un œil. Bonjour Eva Bétan.
Bonjour.
Je sais que vous suivez ça de très près aussi, le quart de finale de basket, que ça vous passionne, n'est-ce pas?
Vous ne pouvez pas dire vraiment ça et le cinéma coréen, c'est les deux choses que j'aime.
Tu mérites un amour, quel joli titre.
Oui.
Titre du premier film en tant que réalisatrice d'Afsia Erzi, c'est votre conseil cinéma de ce jour. Alors Afsia Erzi, elle avait à peine 20 ans hein, quand on l'a découverte dans La Graine et le Mulet de Kechiche. Elle en a 32 aujourd'hui, la voilà derrière la caméra avec ce film. Et vous dites, elle a un truc.
Oui, et elle joue aussi dans le film, il faut le préciser. Ouais. Alors, je veux dire tout de suite, pardon pour ceux qui souffrent d'un chagrin d'amour, c'est très dur pour eux, mais ça peut être drôle au cinéma.
Ça peut faire du bon cinéma.
C'est comme quelqu'un qui regarderait ça avec le recul du temps. Il y a le dérisoire des fraises bidons, comme mais non, cette fille, ce n'est rien. Mais c'est une question de tonalité. C'est très difficile à expliquer. C'est pas du gros rire du tout. Elle se moque pas du chagrin. C'est plutôt, mais regardez, mais mon Dieu, dans quel état ça peut nous mettre. Elle-même, Elvie Herzi, c'est pas une comique. Elle joue très peu d'expression, mais simplement, elle est la même avec un air de droupie triste et c'est drôle. Le film avance par scène, il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de fluidité, scène de jalousie, scène chez le marabout pour un retour d'amour, scène avec des copains. Les personnages secondaires sont très bien choisis. C'est comme un cœur antique qui, d'une certaine manière, commente l'action, la font avancer et la regarde avec recul. Notamment, il y a le personnage de l'ami gay qui pourrait être caricatural, qui l'est un peu et qui, en même temps, est juste parce qu'il est plein de tendresse. C'est un film ouvert parce qu'on peut se replier sur un chagrin et cette femme déambule dans les rues de Paris. Être esselé, c'est être ouvert au monde, être disponible au monde. C'est un film auto-centré, c'est moi et ma douleur, et en même temps, c'est un film généreux.
Quand on a un chagrin d'amour, on est auto-centré.
Oui, mais elle arrive à en faire un film généreux. Bon. Alors, c'est comme quand vous voyez quelqu'un faire du vélo, vous dites pourvu qu'il tombe pas, pourvu qu'il tombe pas. Pendant une heure, c'est formidable. Après, elle vacille, c'est un peu plus système, comment je continue mon film. Et elle reprend le guidon à la fin, elle sait finir son film, et une belle fin, c'est important. Et vous allez comprendre la raison du titre.
Et ça s'appelle Tu mérites un amour, et la France mène toujours, Eva, face aux États-Unis en quart de finale du championnat du monde de basket, 27-25 pour les Bleus.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R la mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va ?
Jean-Pierre Hameau.
De la Bretagne à la Normandie, de la région parisienne aux Hauts-de-France et jusque vers la région Champagne-Ardenne, le ciel sera très nuageux cet après-midi. De faibles pluies ou bruines accompagneront très localement cette couverture nuageuse. Dans un grand quart nord-est, le ciel sera voilé par des nuages d'altitude parfois épais et partout ailleurs, le soleil va briller largement, même si quelques cumulus bourgeonnent au-dessus des différents massifs. Côté température, les maximales afficheront 18 ou 19 degrés en bordure de Manche, comptez 21 à 25 en général et 26 à 29 degrés en vous rapprochant de la Méditerranée. Demain, la couverture nuageuse restera compacte dans le nord-ouest et le nord. Le soleil va briller sans partage au sud de la Loire et dans l'est. Les températures vont monter d'un cran avant de prendre des allures estivales ce week-end.